vous relever. Pour continuer la louange, notre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et qui a fait la terre. Que chacun de nous, ce soir, reçoive de lui la vie, la joie profonde et la paix parfaite qui seule vienne de Dieu. Amen. Pouvez-vous rasseoir. Nous allons maintenant entrer dans la louange à l'aide de cette feuille. J'invite la lectrice à venir nous accompagner pour que nous la disions ensemble.
Nous disons ensemble notre reconnaissance, notre cœur est joyeux de te savoir présent. Nous te bénissons de nous avoir donné ce jour pour nous reposer en toi et célébrer. Merci pour ton appel qui a donné du sens à notre vie. Merci pour les frères et sœurs qui nous aident. Merci pour ceux que tu places sur notre route. Merci pour les liens que tu tisses
et tout particulièrement pour la communion fraternelle
que tu suscites. Nous te louons pour ta parole, pour ton esprit. Éternel, c'est toi qui es Dieu, et il n'y en a pas d'autre que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. à toi soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ. Amen.
Voici l'annonce du pardon. Il est écrit de la part de Dieu dans la Bible, « Je ne désire pas la mort du pécheur, dit Dieu, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Parole aussi, « J'ai effacé ta faute comme la lumière gagne sur la nuit épaisse. Et j'ai effacé le mal que tu as fait comme le vent chasse un nuage. Tu peux revenir à moi sans crainte. » Car je t'aime dès maintenant et pour toujours. Amen.
La volonté de Dieu. Écoutons, au titre d'une volonté de Dieu, ce que Jésus, un jour, a dit à ses disciples. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même parmi vous. Prière d'illumination. Seigneur, ta parole reste alors que nous passons, mais elle nous donne la force de la vie éternelle et nous entraîne dans ton règne. C'est pourquoi elle devient, traverse les générations et les modes, manne sans cesse renouvelée, puissance objective, bénissant ses auditeurs et ses interprètes, leur donnant une vie qui ne peut être vaine. Amen. Et nous écoutons et lisons pour moi dans Matthieu 18, les versets 19 et 20. Amen. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux.
Un excellent texte pour le culte du soir, n'est-ce pas, déjà? Revigorant pour ça, d'ailleurs, plus aucun problème. Et voilà une introduction que je n'avais pas prévu de dire. Mais dans le passage de Matthieu, que Valérie vient de lire, effectivement se trouve une recommandation de la part de Jésus, une recommandation que j'ai toujours laissée passer, en fait. Que j'ai mise dans la catégorie naïveté, que j'ai mise dans la catégorie impossibilité, dans la catégorie plus fourre-tout, phrase de l'Évangile qui suscite au mieux de la condescendance devant la crédulité des chrétiens, voire du mépris à cause de leur faculté à ces chrétiens d'entonner des sentences auxquelles ils ne croient pas vraiment, comme les Grecs anciens à leur mythe. Nous vivrions, nous, les chrétiens, dans l'imaginaire, dans le monde des choses qui n'existent pas. Nous nous serions, en fait, abrités, logés, dans des creux du réel, dans des failles, dans des grottes, des refuges, pour ne pas voir le monde tel qu'il est, les gens tels qu'ils sont et tels que nous sommes. Nous ressasserions sans fin des phrases qui n'ont aucun impact sur la vie réelle, mais ces phrases, ces sons, nous protégeraient, mais aussi, hélas, nous endormiraient, car nous serions trop faibles pour assumer le monde tel qu'il est. Et pourtant, aujourd'hui et aussi ce soir, j'ai choisi ces deux petits versets parce que justement, mon premier réflexe, comme si on devait se mettre à distance quand on découvre ou redécouvre un texte biblique, y compris quand on est prédicateur, mon premier réflexe à la première lecture a été condescendant avec le texte et avec moi-même. Si cette recommandation de Jésus et ses disciples à ses disciples fonctionnait, eh bien, ça se saurait. C'est alors que, bien que effectivement condescendant, crédule, naïf, eh bien, je me suis quand même mis à réfléchir un peu pour composer le message que je devais nous adresser ce soir. Et je me suis demandé si j'avais déjà fait ça. Alors quoi ça ? Ça, m'accorder avec quelqu'un pour demander avec cette personne quoi que ce soit, dit le texte, à Dieu. Je ne crois pas. Déjà, je ne crois pas que quoi que ce soit, ça veuille dire ici n'importe quoi. Alors j'explique, enfin je tente de montrer ça. En grec, c'est peri, pantos, pragmatos. Alors vous entendez pragma. Pragmatique, hein, vous connaissez ce mot, il s'agit de quelque chose de concret. Ça parle des faits, en fait, en grec. Il s'agit de demander, selon cette recommandation, de demander toute chose concrète. Donc, ce n'est pas demander des choses, on va dire, morales ou dans le domaine des idées, comme les idées de l'amour, les idées de la paix, de la bonté. Plutôt, cette formule nous pousserait à déjà un peu sortir de nos demandes spontanées, habituelles, et nous inviterait, pourquoi pas, à inventer, puisqu'il serait possible de demander tout et de demander des demandes nouvelles plutôt que les demandes conventionnelles telles que celles que je viens de vous citer. Des demandes qui, pourquoi pas, éventuellement susciteraient des réponses qui, elles, changeraient le monde d'une façon surprenante. Voilà donc pour la traduction de quoi que ce soit. Mais revenons au début de la recommandation et de ma question. Est-ce que je l'ai déjà fait, m'accorder avec quelqu'un d'autre pour demander à Dieu quelque chose ? Non. Certes, j'ai maintes fois prié, et quand je dis je, enfin, je parle de vous, hein, en fait. J'ai maintes fois prié avec mes frères et sœurs, et pas que les dimanches. Et c'est toujours plus que deux, en général. Mais je crois que ça n'a rien à voir. Il s'agit ici, avant de prier ensemble, vous l'avez entendu, parce qu'il n'y avait que quelques mots aujourd'hui dans le texte du jour, il s'agit d'abord de s'accorder. Et le verbe grec choisi par le rédacteur de l'Évangile est le mot qui a donné en français le mot « symphonie ». Je me suis aperçu que si j'avais maintes fois prié seul, demandé seul à Dieu quelque chose, et même si j'ai reçu des réponses, voire des exaucements, quand ma prière provenait du plus profond de moi, en fait, plutôt que des modes ou des courants qui parfois nous traversent, des rumeurs, des regrets, des tristesses, des passions tristes, des remords, des ressentiments. Je me suis aperçu que si j'avais maintes fois prié aussi avec les autres, je m'étais rarement, voire jamais, d'abord accordé avec quelqu'un pour ensuite demander avec cette personne quelque chose de concret à Dieu. Je n'avais jamais fait. Donc, j'avais jamais lu ce passage ou entendu ce passage. Et alors, j'ai commencé à bien comprendre la pointe de cette phrase intercalée au milieu de nombreuses recommandations de Jésus. C'est l'accord d'abord et la prière ensuite. Je me suis donc dit qu'il y a là sans doute un des secrets qui expliquerait pourquoi la plupart de nos prières semblent retomber sur la terre comme des oiseaux abattus en plein vol par des chasseurs qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne pensent qu'au plaisir d'interrompre un envol, de détruire une courbe, de détourner un flux. Et j'ai commencé à envisager, sinon à comprendre, pourquoi tant de nos prières retombent au sol comme des oiseaux morts. Comment faire pour qu'ils continuent à vivre et à voler, pour qu'ils migrent, qu'ils passent d'un monde à l'autre ? Alors, certains disent par ailleurs, mais cela ne fait qu'embrouiller les choses, mais ils disent, et quand on parle de la prière, on est obligé de dire les rumeurs qui tournent autour, que le secret de la prière, ce serait la sincérité de la demande. C'est-à-dire faire une demande claire, et pas simplement l'expression d'un vague ressentiment ou d'une idée générale. Mais qu'est-ce que je sais de ma sincérité ? Ma seule sincérité, en fait, dans ce cas-là, c'est l'acte même de prier. C'est la sensation, si je prie à genoux, du sol sur mes genoux. Là, c'est sincère. Le reste, qu'est-ce que j'en sais ? Mais d'après notre texte, le vrai secret, c'est l'accord. C'est la mise en accord, en symphonie, d'au minimum deux personnes, pour ensuite prier, demander, et même plus, puisque le verbe employé pour demander dans ce texte peut aussi bien se traduire, et il vaudrait mieux le traduire d'ailleurs, à mon sens, par exiger. Et si je dis qu'il vaudrait mieux le traduire par exiger, puisque quand nous dirons ensemble le Notre Père tout à l'heure, vous allez vous apercevoir que toutes ces prières sont des exigences. C'est une façon peu commune, en fait, mais je trouve cohérente, d'envisager l'assemblée, notre culte, le culte, comme une assemblée exigeante devant son Dieu qui l'a convoqué. Alors, certes, ce Dieu-là qui nous a invités, nous lui faisons honneur, nous le remercions par la louange préliminaire au culte, par la salutation, la louange, par le dialogue qui se passe. Mais ensuite, il y a l'exigence, la demande. C'est pour ça aussi qu'on est là. Au culte, il y a toujours quelqu'un dans la liturgie pour nous dire « prions ». Mais me suis-je, avant de prier, d'abord accordé avec mon voisin, ma voisine de prière ? Alors je ne dis pas réconcilié. On n'était pas forcément fâché. D'ailleurs, peut-être qu'on ne se connaissait pas. Il aurait été anormal qu'on soit fâché. Mais Je ne dis pas réconcilier. Se réconcilier, au fond, finalement, c'est facile. Il suffit de vouloir. Mais me suis-je bien d'abord accordé avec lui ou elle? Car là, il ne suffit pas de vouloir mettre un terme à un différend quelconque en prenant sans doute sur soi, etc. On peut toujours neutraliser un conflit, en général par des paroles vagues qui temporisent. Trouver un terrain neutre. S'accorder, ce serait plus subtil. Si en grec ici, ça parle de symphonie, comme je l'ai dit, en français, accorder, ceux qui ont fait du latin, ça parle de cœur, cordé. Mais en français comme en grec, il s'agit de faire vibrer ensemble des pulsations et des tonalités différentes. Alors je vais faire un pot-pourri de métaphores. Il s'agit de faire vibrer ensemble des pulsations et des tonalités différentes de deux instruments différents fabriqués avec des normes différentes qui s'adressent à des cultures différentes, destinées aussi à des usages différents, lucratifs, cultuels et autres, avec des matériaux différents, avec chacun des malfaçons, des torsions, des coups reçus, comme nos cœurs. Nos cœurs qui battent rarement en harmonie. Il ne s'agit pas uniquement de se parler, vous savez, le langage commun, le code habituel, très utile, les phrases communes et toutes les répétitions qui vont avec. Ça, évidemment, nous le faisons, mais s'accorder, c'est plus dangereux, plus éprouvant, car il faut d'abord réussir à entendre cette dissonance qu'on refoule constamment, mais elle est là, cette dissonance provoquée tout simplement par nos parcours respectifs, nos âges, nos représentations différentes. Révéler cette dissonance pour ensuite commencer à accorder. Les musiciens qui jouent ensemble le font avec des instruments qu'ils portent, et s'ils réussissent, l'œuvre est produite et la beauté devient touchante. Et ces musiciens peuvent être indifférents l'un à l'autre quand ils ne jouent pas, ou se détester même, ou se jalouser, ou que sais-je, comme tout groupe humain. Mais s'ils s'accordent en permanence, physiquement, je veux dire, eh bien la beauté apparaît. Dans l'Église inspirée par le Christ, nous sommes nous-mêmes des instruments, mais nous prétendons souvent vouloir faire apparaître l'œuvre de Dieu sans rien faire, sans faire le travail. Et ce travail, il est concentré dans ces deux minuscules versets. Sans prendre de risque, en fait, le risque de nous accorder avant, dans le sens que je viens d'évoquer. Alors, si j'étais un simple animateur de culte, je ferai maintenant une animation. Je ferai des groupes de deux ou trois et je demanderai à chaque groupe de s'accorder à deux ou trois, dit le texte, et on passerait toute la nuit là. Mais je ne suis pas un animateur de culte, comme des gens qui se succèdent à cette chaire, à ce pupitre, à Port-Royal. Je suis un prédicateur adulte et nous sommes tous des personnes responsables. Donc on ne va pas faire d'animation de groupe. Et nous sommes invités ce soir simplement à rejoindre cette question fournie par l'Évangile. Avons-nous déjà au moins essayé de nous accorder avec quelqu'un avant de prier avec cette personne pour demander à Dieu quoi que ce soit de concret? Et sinon, si on ne l'a pas fait, voudrions-nous au moins essayer? Et quand nous essaierons, est-ce qu'on pense qu'on va continuer à le faire? Se donner rendez-vous avec quelqu'un de notre Église, ou pas d'ailleurs, dans l'objectif de demander à Dieu quelque chose de concret, mais en faisant d'abord ce travail d'accord. Alors, je ne connais pas la méthode, et je ne sais pas s'il y en a une. Ce n'est qu'une histoire de sensibilité, d'intuition, de finesse et d'écoute. Ce n'est qu'une histoire d'abandon, du désir permanent d'avoir la voix la plus haute, la parole la plus vraie, la plus englobante. Ce n'est qu'une histoire de s'ouvrir à l'autre au-delà de la représentation du commerce social, notre vie habituelle, et même au-delà de l'amour qu'on porte à cette personne. Cet accord pourra se faire dans la construction de cette demande, qui, elle, est plus importante que l'accord encore, de la demande, de l'exigence, de cette prière. Mais il ne faut pas avancer plus vite que ça l'exige. Parce qu'on peut être malin aussi. On peut simuler l'accord très rapidement pour ensuite aller exécuter une prière. On peut toujours exécuter une prière et donc l'empêcher de migrer, de s'envoler. Et au moment où nous jugeons que cet accord est fait, ensuite, on peut aller prier. exprimer la demande que notre accord aura dévoilée. Voudrions-nous au moins essayer pour que nos prières ne soient pas en permanence replaquées au sol, pour que nous sachions ce que nous voulons avant de le demander, pour que notre Église, par exemple, devienne une Église symphonique, une Église accordée et exaucée, s'accorder pour demander et recevoir, juste, essayer. Amen. Titre de confession de foi, maintenant sera lu un texte qui a été traduit d'une partie de la prédication d'Albert Schweitzer et ça date de 1918.
Je vous invite à vous lever. Que pouvons-nous encore promettre aux morts ? Que leur mort n'était pas inutile ? Maintenant que nous regardons la guerre comme quelque chose de fini, ceux qui ont été sacrifiés sont devant nous comme une troupe dans laquelle il n'y a plus de différence d'armes et de nations, des êtres humains qui sont unis dans la douleur et la souffrance. Par notre faute, ils ont été offerts. De manière trop légère, dans tous les peuples, on pensait du bien et du mal de l'individu. On considérait la vie humaine, cette valeur mystérieuse et irremplaçable, de manière trop insignifiante. De manière trop inconsciente et légère, on parlait de la guerre et de la misère qu'elle apporte. On était habitués à comptabiliser tant et tant de vies humaines. On glorifiait et chantait cette inhumanité. Alors arriva ce qui devait arriver, mais des milliers de fois plus lourd et plus fort que ce que l'on avait imaginé. Et c'était si laid et affreux, si plein de misère et de détresse, qu'aucune glorification n'est plus possible, et que seule la douleur et l'horreur nous restent. Ceux auxquels nous pensons aujourd'hui, au-delà de toute barrière de nationalité, ont été sacrifiés à l'esprit de la non-compassion. En nous inclinant devant eux et en nous humiliant, nous promettons que cet esprit auquel ils ont été sacrifiés doit être réduit à néant. L'esprit dans lequel cette génération humaine a grandi, nous voulons nous en débarrasser comme le grand péché qui a fait souffrir le monde. Nos enfants doivent l'apprendre de nous et recevoir comme un héritage pour leur vie que le commandement « tu ne tueras pas » a une signification beaucoup plus profonde que celle que les hommes qui nous ont éduqués lui ont donnée et que nous avons acceptée. Les millions d'êtres humains qui ont dû tuer, puisque c'était devenu ainsi, et que l'ordre et la légitime défense les y obligeaient, cela devrait rendre compte à toutes les générations à venir du monde des atrocités qu'ils ont dû traverser, afin que plus aucune ne s'aventure dans un tel destin. Que le respect de la souffrance humaine et de la vie humaine, devant le plus petit et le plus insignifiant, soit la loi d'airain qui régit désormais le monde.
Béni soit l'homme qui s'appuie sur Dieu. Dieu sera son appui. Il sera comme l'arbre planté près des eaux qui pousse ses racines vers la fraîcheur du courant. Quand vient la chaleur, l'épreuve, l'angoisse, son feuillage reste vert, sa foi et son espérance intactes. Ô notre Père, nous voici devant toi, recueillis et prêts à puiser au plus profond de nos cœurs la paix et l'harmonie, l'élan et la force dont nous savons que tu nous les renouvelles toujours, toi qui es à la source de toute vie. Nous avons un rêve, enraciné dans l'Écriture. Les montagnes seront abaissées et les vallées élevées. Les montagnes de l'injustice, des droits de l'homme bafoués, de l'oppression seront abaissées et s'élèveront les vallées de l'injustice, de l'humanité, de la fraternité. Les amertumes et les divisions entre les hommes s'effaceront, les murs tomberont, l'harmonie s'établira, la confiance et la paix régneront, les ventes d'armes diminueront, les ressources seront davantage partagées. L'autre sera devenu un frère que l'on aimera, car on aura pris conscience qu'il est aimé de Dieu. En vérité, nos rêves enracinés dans l'Écriture seront devenus vrais. Amen.
Eh bien, nous pouvons dire maintenant à haute voix la prière d'exigence que nous a transmise Jésus, à savoir le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et pour recevoir la bénédiction, je vous invite à vous relever. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il fasse briller sur vous sa lumière et qu'il vous donne la paix. Et donc, allez en paix, profitez de cette semaine avec le Seigneur. Nous pouvons maintenant nous rasseoir pour écouter le dernier passage musical. c'est nous qui remercions.
On est très chanceux, franchement.